There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
T'as pas honte?
De quoi?
Bah de boire dans une bouteille en plastique alors qu'on fait un podcast sur l'environnement, je sais pas.
Non mais ça va, j'ai juste oublié ma gourde.
Non mais le plastique, Greg, franchement, on a déjà fait un podcast qui en parle de ça. Hein.
Mais je sais.
Bah oui, mais ça donne quel exemple aux gens qui nous écoutent? Quel exemple, Greg?
Non mais franchement, qu'est-ce qui t'arrive?
Mais rien! Rien. Enfin, je suis un peu tendu là.
Ouais.
Avec ma femme, je t'avoue qu'on s'est mis au zéro déchet il y a quelques temps et... comment dire, je suis un petit peu à fleur de peau.
Ouais, non mais je comprends, les petits gestes c'est compliqué. Mais tu sais, en termes de petits gestes, tu devrais déjà commencer par faire le tri sur ton bureau parce que ça ressemble de plus en plus à une déchetterie.
Je t'ai dit que j'étais tendu! Et c'est vraiment pas drôle! Réduire sa consommation de déchets, Greg, c'est un chemin long et surtout difficile.
Ok, donc le seul truc que t'as acheté, c'est ton sens de l'humour, c'est ça?
Je crois bien qu'il est à la poubelle, ouais. T'as raison. Tu sais ce qui me ferait du bien, Greg?
Ah, je sais. Un podcast sur le zéro déchet.
Un podcast sur le zéro déchet!
Dans l'envers du décor, tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants, pour faire un tri sélectif bien sûr de vos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal et franchement, vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec. Moi, c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique qui utilise ses vieux pots de compote pour faire des tupperwares.
Non, mais en fait, ça Greg, tu l'as déjà dit dans un précédent épisode, on fait pas deux fois la même anecdote, c'est une règle.
Ah. C'est pas grave, journaliste scientifique qui stocke tous ses sacs en papier craft quand il revient du marché. J'en ai des centaines, je sais plus quoi en faire. Vous pouvez m'aider?
Non, et moi c'est Mathieu Ballu, journaliste scientifique qui garde précieusement les baguettes, vous savez, quand il a commandé du japonais. Donc, pas mal quoi.
Non mais qui jette ses baguettes?
Bah pas moi déjà. Alors, leçon numéro 1, Greg, pour une vie zéro déchet, on arrête avec les bouteilles en plastique, mais arrête de boire là, enfin.
Alors écoute, je vais pas faire l'avocat des bouteilles en plastique, hein. Mais les gourdes, elles sont loin d'être parfaites.
Oui, certes. D'ailleurs, dans le manuel du zéro déchet que je viens d'acheter...
T'as acheté un manuel du zéro déchet?
Tu sais, j'aime bien avoir des manuels, moi. C'est comme ça. J'aime bien avoir des méthodes.
Ok.
Voilà. Et dans le manuel, c'est écrit « La gourde, c'est mieux que les bouteilles en plastique, mais attention, à condition d'en avoir une seule et de l'utiliser longtemps. »
Ah ouais. Ouais, moi j'en ai 5 hein, chez moi.
5?
Bah ouais, hein, donc c'est un peu loupé quoi.
Bah je pense, ouais, elles sont fabriquées avec quel matériau?
Alors je sais pas, tu sais, moi je les achète surtout par couleur pour que ça aille avec mes chaussures, donc je regarde pas trop les matériaux.
Toujours ce côté fashion victim du camping un peu.
Hein. Ah bah un petit peu. Hein. Mais par contre, il y a un point, c'est qu'elles sont toutes isothermes, hein, parce que je veux garder mon café ou mon thé chaud et mes boissons froides, bah froides.
Oh là là.
Quoi?
Oh là là, j'ai mal à ma planète, Greg. Il n'y a rien de pire que les gourdes isothermes qui sont fabriquées avec de l'inox. C'est un processus de fabrication qui est super polluant.
Ah bah ouais, mais écoute, je savais pas. Bon bah du coup, je prends quoi comme gourde?
Alors le mieux, me dit le manuel, c'est les gourdes en verre.
Ah ouais, les gourdes en verre, c'est bien, c'est pratique parce que c'est lourd, ça se casse. Non, ça va être super en vélo, en pique-nique et tout. Il va y avoir des bouts de verre partout, mon fils va se couper les doigts, ça va être génial, ça sera de ta faute. Mais bon, ok, j'achète une gourde en verre.
Ah non, 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 toi Greg, t'achètes rien du tout.
Non mais c'est bon, je rigolais, ça va pas être de ta faute s'il y a un problème.
Non, non, alors déjà, ok, effectivement, je préférerais pas être responsable des cicatrices sur les mains de ton fils. Non mais c'est absolument atroce le genre de scénario que tu te fais dans ta tête. Non, c'est juste que maintenant, t'achètes plus jamais de gourde, jusqu'à ta mort. Il faut garder une gourde au moins 3 ans pour compenser sa fabrication. Là, t'en as 5, en plus en inox, donc vu le bilan carbone, en fait, c'est mort. Arrête.
Alors attends, ça veut dire que pour que ma gourde elle soit plus rentable que d'acheter plusieurs bouteilles en plastique, il faut la garder 3 ans.
Voilà. Minimum.
Ouais, non mais attends, le problème c'est que je veux bien, mais tu peux la perdre. Elle peut se casser, surtout si elle est en verre ou je sais pas quoi. Donc bah, si t'arrives un problème en moins de 3 ans, bah ton bilan carbone, il est pas bon. Ça serait pas mieux finalement du coup de continuer avec mes bouteilles en plastique mais peut-être de les améliorer, tu sais, pour les rendre un peu plus écolo?
Ah non non, en fait les bouteilles en plastique, on a essayé de les améliorer, ça a été une catastrophe, tu te rappelles pas?
Attends, attends.
Attends, je vais t'aider.
Vous l'avez sans doute remarqué, Cristaline vient de créer le premier bouchon qui reste accroché à sa bouteille.
Quel enfer ! Ça, je crois que c'est la pire chose qui a été inventée. Je veux dire, ce bouchon qui est fixé et qui fait que quand tu l'ouvres, alors tu essaies de l'ouvrir même d'une main, de deux mains, peu importe, tu te fous toujours de l'eau sur toi. C'est obligatoire.
Bien sûr, et tu peux pas boire correctement au goulot non plus avec ce foutu truc là, ça m'énerve.
Mais tu sais que ça a fait des émules, hein, parce que maintenant, les déodorants, donc moi j'utilise des déodorants en pchit, tu vois, et avant il y avait un petit capuchon pour éviter de le salir, je sais pas trop pourquoi, à quoi servait ce capuchon, mais en tout cas il était là. Mais pareil, ça devait se perdre, je sais pas, et du coup, ils ont créé une sorte de truc où le capuchon il est incorporé et tu le clipses, tu vois, tu le tournes d'un quart de cercle. Ça a l'air bien comme ça.
Ouais, pas mal.
Sauf que... le truc est tellement mal foutu que quand tu le prends et que tu mets ton doigt pour appuyer, ça fait tourner le capuchon et tu peux pas te mettre de déo, donc tu galères.
Bah voilà, c'est l'horreur. Et résultat, il y a plus de produits gâchés. C'est comme avec ces foutues bouteilles d'eau avec le bouchon qui tiennent dessus. C'est vraiment la pire innovation du siècle et du siècle dernier et du siècle d'avant, ce truc. Cristaline, tu seras pas notre sponsor. Enfin, si tu nous verses pas mal d'argent, on peut éventuellement s'entendre.
On peut s'arranger. On peut dire que le bouchon est bien.
Oui, ah oui, non, en revanche, on n'a vraiment pas de limite.
C'est possible.
Oui, oui.
Bon, après. Ça a été mal fait, mais dans l'idée, ils voulaient faire quelque chose de bien. Le but, c'était de faire en sorte que les bouchons se perdent pas et qu'on pollue moins, tu vois.
Ouais.
Et qu'on fasse moins de déchets.
Ouais, d'accord. Mais mettons que ça marche, même si ça marche. Et bon, j'ai pas vu d'études dessus, mais après tout, c'est bien possible. Le plastique, ça reste un fléau. Et la bouteille en plastique aussi. En France, comme dans le reste du monde d'ailleurs, on le recycle toujours mal et toujours assez peu, hein, le plastique.
Ah ouais ? Genre combien ?
Bah, en France, qui est loin d'être le pays le plus mal placé pour ça, on recycle 20% en gros du plastique, tout plastique confondu, quoi.
Ah, c'est pas grand-chose, hein.
Bah non, c'est pas grand-chose. D'où l'intérêt de se mettre au zéro déchet.
Ok, mais attends, il y a quand même un truc que je comprends pas avec cette histoire de zéro déchet, c'est que ce nom, il a un côté un peu absurde, tu vois. La gourde, par exemple, tu finis par l'acheter, donc tu crées des déchets. Donc t'es pas en mode zéro déchet, à la limite 0.1 déchet, tu vois.
Ok, stop. Non, mais là-dessus, je suis d'accord. Il faut surtout pas le prendre littéralement. En fait, c'est un peu comme le terme décroissance, tu vois. C'est ce qu'on appellerait un mot obus.
Ah oui, je me rappelle. C'est un concept qui est là pour détruire l'idée globale, l'idée commune de la société et pour dire que, justement, c'est pas la seule voie possible.
Voilà, exactement. C'est fait pour ouvrir une brèche dans le mur qui va un peu nous indiquer une nouvelle voie, quoi. Donc là, l'idée, ce serait que ce mot obus, donc zéro déchet, une expression au but plutôt, elle impliquerait un mode de vie différent, une façon de vivre légèrement différente, un effort qui serait pas tout à fait le même, plus qu'au final un vrai résultat à zéro déchet, parce qu'effectivement ça c'est inaccessible.
Donc la philosophie du zéro déchet, c'est d'apprendre à moins remplir sa poubelle en gros ?
Oui, et en même temps ça va plus loin que ça, on y reviendra. Mais pour savoir comment commencer à la base du zéro déchet, moi j'ai appelé Flore Berlingen, qui est l'ancienne directrice de Zero Waste France. C'est une ONG qui se consacre au zéro déchet et qui d'ailleurs a lancé un peu le mouvement zéro déchet avec d'autres ONG.
Quand tu dis moi, c'est Pauline.
Chut.
Et donc, qu'est-ce qu'elle t'a dit, Flore Berlingen ?
Eh ben, Flore Berlingen, elle m'a conseillé à moi de réfléchir à mes besoins en premier.
Ah, oh, une petite séance de thérapie. Alors ça, c'est cool.
Ouais. Alors thérapie, bon, faut pas exagérer, hein. L'idée, c'est qu'à chaque fois que tu veux t'acheter un nouvel objet, il faut que tu te demandes « est-ce que j'en ai vraiment besoin ?»
Ah ouais, vas-y, c'est bien, vas-y.
Eh bien, par exemple, Grégory, avais-tu vraiment besoin d'une nouvelle machine à laver la dernière fois que tu en as acheté une ?
Bah, celle que j'avais, elle était cassée et j'avais besoin de laver mes vêtements.
Ah ah, mais ne pouvais-tu pas faire réparer ta machine à laver ?
Alors écoute, je l'ai achetée en reconditionné pour pas acheter neuf, elle est tombée en panne au bout de 6 mois, le mec est venu la réparer, ça m'a coûté 70€, puis elle est retombée en panne au bout de 6 mois, il n'y avait même plus de garantie, ça allait me coûter encore 140€, donc je me suis dit, je vais acheter une machine à laver neuve, je vais la garder 10 ans et ça va être bien.
Mais ne pouvais-tu pas demander à tes voisins de te prêter leur machine à laver ?
Attends, tu veux que j'aille deux fois par semaine chez mes voisins avec mon sac de linge sale pour faire mes lessives ? Tu rigoles là ?
Ouais, j'avoue. Mais ah, il y a aussi le lavomatique. Pourquoi n'as-tu pas pensé au lavomatique ?
Parce que je suis plus étudiant. Sérieusement ?
Ok, stop. Mauvais exemple. Certes, tu avais besoin de ta machine à laver. J'avoue. Il n'empêche que pour plein d'autres objets, ça marche. Par exemple, pour les vêtements, il y en a plein qu'on porte jamais et pourtant on en achète tout le temps.
Sauf les deux présentateurs de ce podcast. D'ailleurs, pourquoi on en achète toujours des neufs en fait ? Il y a plein de fringues d'occasion partout.
Oui, mais tu te rappelles aussi qu'on a dit dans un précédent podcast que c'était pas si terrible pour l'environnement, ces nouvelles applis à la Vinted, etc., parce que les achats en ligne, justement, ça pousse à la consommation.
Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu crois que c'est aussi le cas, tu sais, si tu fais ces achats en physique dans des friperies, des vrais magasins ?
Ouais, mais les friperies, ça a changé. Tu sais, maintenant, c'est devenu un truc plutôt cher, voire très cher. C'est plutôt un truc de hipster avec des éditions limitées et tout. À Paris, t'as carrément des friperies qui vendent des jeans à plus de 200 euros pièce alors qu'ils ont déjà été portés, quoi.
Ah ouais, alors là, pour le coup, un jean à 200 euros pièce, pas neuf, moi, ça me dissuade, hein, je l'achète pas. Au moins, zéro achat, zéro déchet.
Eh ben ça, là, zéro achat, zéro déchet, c'est intéressant parce que ça prouve bien que le prix des objets a un impact sur notre consommation.
Sans déconner.
Ouais, j'avoue en le disant que c'est quand même un peu obvious, quoi.
Ah bah ouais, c'est vrai que moi, la plupart du temps, hein, je regarde plus le prix d'un objet que son impact sur la planète en premier lieu avant de l'acheter. Après, je regarde l'impact sur la planète, quoi. Mais d'abord, je regarde le prix.
Ouais, moi aussi, en fait. Mais c'est pour ça que des associations comme Zero Waste France demandent carrément à ce qu'on augmente le prix des objets neufs. Ça permettrait de rétablir la vraie valeur d'un objet.
Alors, c'est vrai que si une machine à laver coûtait 5000 euros, j'irais au lavomatique.
Ah ah !
Ça serait génial, non ? On irait tous au lavomatique. Non, je pense que les familles modestes, elles vont adorer cette proposition. Moi, je m'étonne qu'elle n'ait même pas été reprise par un candidat à la présidentielle.
À la présidentielle ? Il y a une présidentielle ?
Ouais, ouais, tu sais, c'est là où on définit qui va gérer la Troisième Guerre mondiale.
Ah ! Ah oui, c'est intéressant, ça.
Bon, ok, on achète trop, mais on l'avait déjà dit à l'époque du podcast sur les soldes et de plein d'autres. Je suis pas certain que c'est juste en se disant qu'on augmente les prix qu'on va résoudre le problème. Du coup, si je veux faire du zéro déchet, je peux commencer par réduire mes déchets dans ma poubelle. Et ça, comment je fais ? Parce que pour le moment, tu m'as parlé de ma bouteille en plastique. Ça, d'accord. Mais à part ça. Parce que moi, c'est hors de question que j'ai pas une machine à laver qui fonctionne et pas de slip à mettre dedans.
Oui, et moi, je suis tout à fait pour que tu puisses porter des slips.
Je porte des caleçons, en vrai.
Moi, des boxeurs.
Attends, les boxeurs, c'est serré et
ouais.
Les caleçons... Ah oui, bah des boxeurs aussi.
Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est prendre le problème par l'autre bout. Et maintenant, réfléchir à la composition de ta poubelle.
Allez, vas-y, passons à la pratique, hein, parce que réfléchir...
Oui, oui, ça c'est vrai, c'est pas mon truc non plus. Alors, Flore Berlingen, elle m'expliquait que pour la majorité des Français, la poubelle, c'est composé d'un tiers de déchets organiques. Ça, c'est les épluchures, le marc de café, les coquilles d'œufs, etc. Et ça, c'est ce qu'on peut le plus facilement supprimer de nos poubelles. Donc, des déchets en moins.
Ah ouais, un tiers, c'est beaucoup.
Un tiers, c'est beaucoup. Et pour t'en débarrasser, donc, il te suffit d'installer un composteur.
Ah non, 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 non. Ça, c'est non direct. Hein. Le composteur, ça pue. Si t'as pas de jardin, que t'habites dans un appartement comme moi, c'est juste pas possible. Même si t'as un balcon, c'est l'enfer.
Certes, mais si tu le vides 2-3 fois par semaine dans un petit parc près de chez toi, tu vois, mais les déchets, ils ont pas vraiment le temps de se décomposer. Et je t'assure que l'odeur, elle est tout à fait supportable. Hein.
Dans un petit parc près de chez moi.
Bah oui, pourquoi pas.
Mais pourquoi j'irais vider ma poubelle dans un parc ? J'ai déjà la flemme de descendre juste dans le local à poubelle. Tu crois vraiment que je vais prendre ma poubelle, que je vais aller dans un parc ? Enfin, en plus, c'est dégueulasse.
Mais parce que figure-toi que c'est là qu'il y a les composteurs de quartier, dans les parcs publics. Et d'ailleurs, puisque t'es une grosse feignasse, il y en a aussi de plus en plus qui sont au pied des immeubles.
Tu sais quoi, à la limite, mais ça résout pas l'autre problème du compost, c'est que c'est quand même pas pratique, parce que faut pas mettre les épluchures d'orange, faut pas mettre les os, faut pas mettre les trucs. Moi... J'ai la solution. En fait, elle existe dans mon immeuble.
Ah bah vas-y, fais le podcast. Hein.
Ça s'appelle la poubelle biodéchets. En fait, on est un peu à un endroit pilote où ils testent ça. C'est une petite poubelle que tu mets dehors, donc comme un compost, sauf que c'est dans un sac tu as biodégradable. Et tu mets tout ce qui est biodéchets. Donc tout sans exception, tu fais pas de tri. Tu mets ça dans un sac. Quand il est plein, tu vas au même endroit de tes poubelles. Tu as une poubelle qui est, je crois qu'elle est marron noir. Tu mets ça dedans et ensuite, ils s'occupent de... Je sais pas en fait ce qu'ils font, mais je pense que c'est bien.
On va dire que c'est bien, quoi. Si c'est un truc pilote, on espère que c'est bien.
Voilà, tu vois. Mais bon, ça, tu vois, c'est du tri, c'est pas vraiment du zéro déchet. Parce qu'on jette.
Alors voilà, c'est là où c'est un peu plus complexe que le zéro déchet, c'est seulement faire en sorte d'avoir moins de déchets. C'est aussi valoriser les déchets. Parce que du coup, ça les rend plus utiles. Donc, ça fait moins de déchets inutiles, si tu veux. Et du coup, ça s'inscrit quand même dans la philosophie du zéro déchet.
Ah oui, d'accord, je comprends. Ok, ok. Mais trier ses déchets alimentaires, bah, ça n'empêche que ça reste un tout petit geste, quoi. Même si tout le monde le fait, je suis pas sûr de l'impact global.
Bah là, tu vois, je te trouve un peu dur, parce que un tiers de la poubelle d'un ménage, c'est beaucoup, hein.
Alors, un tiers de la poubelle d'un ménage, c'est beaucoup, sauf que les déchets ménagers, c'est seulement 6% des tonnes de déchets produits par an en France. Donc, un tiers de 6%, ça fait pas beaucoup.
Attends, seulement 6%?
Ouais.
Waouh. Mais les secteurs qui émettent des déchets en France, du coup, c'est quoi?
Alors, il y en a un tiers, c'est l'industrie, tout ce qui est industrie, et un quart, c'est l'agriculture. notamment les bouses de vache et ce genre de trucs.
Je me demande si tu viendrais pas de tuer cet épisode de podcast là.
Et ton envie de zéro déchet peut-être.
Aussi, ouais. C'est hyper déprimant tes chiffres, hein. Mes coquilles d'œufs, c'est vrai que tout ça c'est ridicule quoi. Au fond, est-ce que j'aurais pas raté beaucoup plus que ça ? Je veux dire, ma vie quoi.
Mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Le zéro déchet, c'est quand même super important, je t'assure. T'as fait le bon choix.
C'est vrai Greg, tu dis pas seulement ça pour me faire plaisir.
Bah ouais, parce que tu vois, l'idée du zéro déchet, c'est aussi que derrière chaque objet produit, il y a une dépense d'énergie qu'on voit pas. Par exemple, tu as ton stylo là dans ta main, il a demandé le fonctionnement de machines, d'électricité pour les faire fonctionner, de camions pour l'amener, etc. On appelle ça l'énergie grise.
Énergie grise un peu en mode la nuit tous les chats sont gris quoi, elle est grise parce qu'on la voit pas.
Exactement, et tu vois derrière le mouvement zéro, zéro déchet donc, il y a ça aussi, il y a l'idée qu'en gaspillant moins, en consommant mieux, on dépense moins de cette énergie grise qui pollue. Et ça, c'est sans parler des déchets qui sont issus de la production des objets que tu consommes.
Oui, parce que ça aussi, on l'a pas dit, mais derrière chaque objet, il y a ce qu'on appelle les déchets invisibles. Et c'est un peu comme l'énergie grise, on les voit pas, et pourtant c'est hyper important.
Voilà. Et il faut être clair, ces déchets industriels et agricoles, malgré les avancées technologiques, qui sont donc ceux qui polluent le plus, on le rappelle, c'est toujours, toujours de la pollution au final, hein, même si on essaye de faire du recyclage ou quoi.
Ah, mais là, je suis bien d'accord. Tu vois, j'en avais parlé avec Christian Duquesnoy, qui travaille à l'Institut des déchets IRSTEA.
Quand tu dis « t'en as parlé », c'est Pauline, du coup.
Oh là là. Mais bien sûr, c'est Pauline Bro. C'est Pauline Bro qui fait 99,9% de ce podcast depuis des semaines. C'est une évidence, non?
Merci à elle, d'ailleurs.
Merci à elle. Bref, j'en ai parlé à Christian Duquesnoy, qui me disait que même une technologie de revalorisation des déchets à faible impact sur le climat, elle peut détruire la biodiversité.
Ah ouais, et il y a un bon exemple là-dessus, c'est la méthanisation. Tu vois ce que c'est ?
Oui, vas-y, mais explique.
Donc tu sais, c'est la technologie qui a été vendue comme la solution miracle parce qu'elle permet de traiter les déchets agricoles, notamment les bouses de vaches, qui polluent beaucoup. On le rappelle, l'agriculture, 25% des déchets, c'est quand même pas rien.
Bah voilà, et justement au sujet de cette méthanisation, Christian Duquesnoy, il la prenait comme exemple. En fait, il faut une quantité minimum de déchets pour qu'un méthaniseur fonctionne.
Parce que les déchets, c'est le carburant des méthaniseurs. S'il n'y a pas de déchets dans ta machine, elle ne peut plus fonctionner.
Exactement, et c'est ce qui se passe régulièrement d'ailleurs en Belgique et en Allemagne. Ces deux pays-là, ils misent beaucoup sur la méthanisation pour leur transition énergétique. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de matières premières, ils n'ont pas assez de déchets en fait.
Tu veux dire de bouse de vache ?
C'est ça, voilà. Et du coup, ils compensent en utilisant du maïs pour continuer à produire du biogaz.
Donc, on fait pousser du maïs juste pour remplacer les bouses de vache pour faire du gaz.
C'est l'idée, ouais.
Parfait.
Et en plus, la méthanisation, ça produit soi-même un déchet qu'on appelle un digesta, et ça non plus, c'est vraiment pas terrible pour la Terre.
Donc, pour résumer, les produits qu'on achète neufs, ils ont déjà un paquet de déchets qui les suit, et ces déchets, ils pèsent sur l'environnement avant même le choix de ta poubelle. Et tiens d'ailleurs, ça me fait penser à une petite devinette pour toi.
Ah, mais enfin, le moment devinette, ça fait combien de pages que je l'attends, celui-là ?
Moi aussi j'adore, surtout qu'en général tu trouves pas et là tu trouveras jamais, c'est sûr. C'est un petit objet qu'on utilise tous les jours et dont la fabrication nécessite énormément de déchets.
D'accord, mais est-ce que tu peux être encore moins spécifique là ? Enfin je veux dire, donne-moi au moins la pièce dans laquelle il se trouve l'objet.
La salle de bain.
Ah ! Très bien, c'est le déo.
Non, pas du tout.
C'est le papier toilette ?
Non mais le papier toilette, on est d'accord que c'est une aberration.
Ah la vache, c'est tellement une aberration. Quand est-ce qu'on passe tous aux toilettes japonaises ?
Ça serait vraiment génial. J'ai jamais pu tester, mais je pense vraiment que c'est un très bon concept. Est-ce qu'on sait si écologiquement c'est un bon concept ? Parce que le principe a l'air génial, mais est-ce que c'est vraiment bien pour l'environnement ?
Je suis toujours pas allé à fond sur le sujet. Mais par contre, moi j'ai testé, je peux dire que c'est formidable. Voilà.
C'est vrai ?
Ah ouais, qu'est-ce qu'on est propre après.
Génial. Mais t'es sec quand même quoi.
Mais oui, t'es sec parce qu'il y a une petite... C'est incroyable.
Exceptionnel.
Une fois que t'as expérimenté ça, le papier toilette, c'est plus possible en fait.
Non mais ça, c'est clair que c'est nul le papier toilette, mais ça n'empêche que c'est pas ça l'objet qu'il faut supprimer de ta salle de bain, celui qui est responsable de tonnes de déchets invisibles.
Alors, étant donné qu'on avait parlé dans un précédent podcast de la culture du coton, je me demande si c'est pas ça en fait, le coton par exemple pour se démaquiller, etc.
Non.
Ok, les cotons-tiges alors ?
Non, mais de toute façon, les cotons-tiges en plastique, c'est interdit à la vente depuis janvier 2020, et surtout, faut pas se mettre ça dans les oreilles, hein, les gens.
Non, mais ça, on va avoir un débat qu'on va pas avoir sur ce podcast, hein, parce que Greg, il utilise une bougie.
Alors, non. Alors, J'utilise pas une bougie. Je t'ai conseillé d'en utiliser une. J'ai jamais osé, mais c'est une bougie. Tu mets une flamme et après, ça te fait couler ton cérumen dans une sorte de coupole. Enfin, ça a l'air bizarre comme ça, mais on m'a dit que ça marchait super bien.
Voilà, donc bienvenue dans le podcast L'envers de la médecine alternative, tu vois.
Mais non.
Donc, c'est pas le coton-tige.
Non.
Je sèche, là. Donne-moi au moins un indice, s'il te plaît.
L'objet mystère se trouve sur ton lavabo.
Ah, un rasoir.
Non, mais c'est à peu près la même taille.
Ok, je l'ai. C'est la brosse à dents.
Exactement, bravo.
Et attends, pourquoi la fabrication de la brosse à dents, elle émet particulièrement de déchets ?
En fait, la brosse à dents, c'est un objet qui est assez complexe à concevoir et il y a aussi beaucoup de plastique. Une brosse à dents, ça pèse à peu près 15 grammes. Sauf que pour sa fabrication, ça produit 1,5 kg de déchets. C'est 100 fois son poids en déchets.
T'as fait le calcul comme ça, hein ?
Ah, tu sais, moi, j'ai fait un bac S option maths. Hein.
C'est incroyable, ça se ressent tout de suite. Hein. Mais du coup, cette production de déchets qui est quand même assez dingue pour un si petit objet, si en plus tu changes ta brosse à dents tous les mois, c'est catastrophique, quoi.
Bah ouais. Du coup, toi qui es zéro déchet, je suppose que t'as remplacé ta brosse à dents en plastique par une brosse à dents en poil de bambou et en bambou, c'est ça ?
Alors là, mon petit gars, t'es mal tombé, tu vois.
Ah bah tant mieux, parce que on me tanne avec ces histoires de bambou et j'ai pas envie, donc si tu peux m'expliquer que c'est pas si bien que ça, tant mieux.
Bah, étant donné que je suis un peu un nerd des brosses à dents, c'est un peu curieux comme communauté, je reconnais, mais moi j'ai tendance à tester toutes les nouvelles brosses à dents qui sortent, les nouvelles matières, etc.
D'accord, pourquoi pas, chacun son hobby, tu vois.
Et je peux pas m'empêcher, tu vois, j'envoie une nouvelle, j'y vais. Et en plus, c'est vrai que je me suis pas mal renseigné, parce que, comme tu dis, il y a une mode de la brosse à dents en bambou, et en fait, c'est pas non plus l'idéal, parce que la culture du bambou, c'est pas génial. C'est facile à faire pousser le bambou, mais ça prend souvent sur des terres cultivables qui auraient servi pour d'autres choses, etc. Donc le bilan environnemental de la culture du bambou, c'est pas aussi top qu'on veut bien le dire. Certes, il n'y a pas de plastique, mais quand même. En fait, l'idéal, c'est pas ça. C'est un combo plastique recyclé et tête remplaçable. En fait, l'ensemble de ta brosse, c'est du plastique recyclé, mais en plus, tu ne remplaces que la tête. Je sais pas si t'as déjà vu ce genre de brosse, tu sais.
Non, j'en ai entendu parler, mais je ne sais même pas où en voir, mais tu vois, là, je dis, ouais, pourquoi pas, allons-y.
Bah ouais, alors c'est le truc, évidemment, à l'origine, ça va te coûter un peu plus cher, mais quand tu remplaces que la tête, ça vaut le coup, c'est comme souvent ce genre de truc.
Ok, monsieur l'expert, parfait, du coup, j'en profite. Niveau dentifrice, tu fais comment ?
Alors en fait, là, j'ai une stratégie, que ce soit pour le dentifrice, pour le shampoing ou pour le gel douche, en fait, j'achète tout sous forme solide, ça fait comme des savonnettes, quoi.
D'accord, donc en fait, t'as pas d'emballage, quoi.
Voilà, j'achète ça en vrac.
Ah mais oui, mais comment ça se fait qu'on n'a pas encore parlé du vrac ? C'est pas la base du zéro déchet, le vrac ?
Eh ben, c'est la base du zéro déchet, le vrac, dans le sens où c'est ce qui se remarque le plus. Après, soyons clairs, autant pour ma poubelle à moi, ça fait une vraie différence, parce que clairement, je jette pas l'emballage de mon shampoing, je jette pas non plus le plastique qui va autour de l'emballage de mon shampoing, donc ça, c'est clairement bien. En revanche, au niveau des fameux déchets gris dont on parlait tout à l'heure, donc des déchets industriels, là, l'impact de l'achat en vrac, il est quand même moins évident, et puis il est moins mesurable aussi, hein.
Ouais, donc c'est comme on dit à chaque fois sur ces petits gestes qui nous donnent l'impression de faire beaucoup, mais on n'est pas sûr que ça fasse beaucoup. Mais n'empêche, c'est quand même un vrai choix de vie.
Oui.
Je sais pas si j'arriverai à faire pareil, moi.
Je sais pas non plus.
Déjà, comment t'as fait pour convaincre ta famille de te suivre dans le zéro déchet ?
Alors là, ça a été assez simple, dans le sens où l'idée ne vient pas de moi, mais de ma femme.
Ah d'accord. Ça explique beaucoup de choses, mais du coup, ça pose une question encore plus importante, comment elle a réussi à te convaincre ?
Oh, comme pour beaucoup de choses, hein. L'accent allemand principalement.
Ah, ouais, c'est radical ça.
Ouais, bon, il y avait un autre truc aussi, hein, et en vrai, hein, pas loin de chez nous, on a plusieurs magasins, tu sais, ce genre de magasins bio qui te permettent d'acheter en vrac. Du coup, toi, tu passes devant avec tes sacs, tu vois, en revenant du supermarché traditionnel, tu passes une fois, deux fois, trois fois, et au bout d'un moment, la quatrième fois, t'en as un peu marre de tous tes emballages, et donc tu rentres, et tu tentes. Et tu t'aperçois que c'est plutôt cool. En plus, moi, je déteste vraiment avoir les sacs plastiques qui s'accumulent chez moi. J'ai pas la place, quoi.
Ah, c'est vrai que moi, j'en ai partout et ça me saoulait aussi. Du coup, j'ai testé un peu de vrac pour, tu sais, des céréales, des graines, des trucs comme ça que je mets dans mes pots de compote, tu vois.
Ah là là, les pots de compote.
Mais du coup, j'ai des pots de compote à la place des sacs plastiques, donc je sais pas si c'est mieux. Par contre, voilà, j'ai fait ça pour, tu vois, des graines, des céréales, mais tu peux pas remplacer tout ce qu'il y a dans ta cuisine par du vrac, on est d'accord.
Non, non, et c'est là où je vais te reparler de mon manuel de zéro déchet qui te conseille plutôt d'écrire une liste de tous les aliments non périssables de ta cuisine, comme les pâtes, le riz, la farine ou même les biscuits secs par exemple. Tous ces aliments-là, ils sont disponibles en vrac et ils peuvent rester des années dans des bocaux justement.
Une liste. Toi, t'as fait une liste des aliments non périssables.
Non mais je te disais que c'est ma femme qui m'a convaincu, donc il est bien évident que c'est ma femme qui a fait une liste. Comment tu fais pour une liste de courses ? Moi, ma femme et moi, on met ça sur WhatsApp.
Moi, j'ai Google Keep, Alors, il y a sûrement des équivalents qui ne sont pas Google, mais en tout cas, c'est une application qui est vachement pratique parce que tu peux faire une liste avec des... Tu coches des petites cases et quand tu coches, elle s'en va. Tu peux partager ta liste avec quelqu'un d'autre et tous les anciens trucs que tu as achetés, ils restent en mémoire. Donc, quand je tape juste, je sais pas, PA, bah, il me propose pâte, papier toilette, etc. Et c'est super pratique.
Pour moi, ça, c'est vraiment le genre d'innovation qui ne sert à rien.
Grèce. Mais bien sûr que si.
Mais j'ai pas besoin d'avoir une liste qui garde les machins que je vais racheter en mémoire. Puisque de toute façon, il faut que je pense à ce que je vais devoir racheter.
Bah si, parce qu'en fait, des fois, c'est utile dans le sens où il y a des choses que tu dois acheter et tu penses pas. T'as oublié, par exemple, qu'il te manquait de la sauce tomate. Je te donne un autre exemple. Moi, j'ai une liste d'affaires à emmener en voyage. Avec ce même principe. Et en fait, c'est super pratique parce que à chaque fois que je pars en voyage, je regarde dans les trucs que j'avais déjà cochés. Ah oui, faut que je pense à prendre mes lunettes. Ah oui, parce que je suis une tête de linotte.
Tu viens d'inventer le pense-bête. C'est génial. Moi, j'ai un post-it sur mon frigo, mais t'as raison. C'est très bien aussi comme ça via une application Google en plus. Google, quoi.
Tu vois, ton opposition à la technologie depuis que t'es passé au zéro déchet, c'est quand même quelque chose. Hein. Mais bon, revenons à cette histoire de vrac. Est-ce que tu gaspilles pas en achetant en vrac comme ça, les trucs vont pas pourrir, quoi, ou je sais pas quoi.
Et non, parce qu'au contraire, ça t'aide à mieux visualiser les quantités. Alors, ça prend un peu d'entraînement parce qu'on n'est pas habitué à acheter comme ça. Et très franchement, les premières fois où j'ai acheté en vrac, j'en ai acheté 10 fois trop. Parce que les trucs secs, ça prend pas énormément de place. Et que les emballages, en général, ils sont beaucoup plus gros que les choses qu'ils contiennent.
C'est ça. Et puis, tu vois des super trucs du genre des baies de goji et tu te dis, ah, je vais en acheter plein. Et puis après, tu te rends compte que c'est 48 euros le kilo.
Mais c'est quoi les baies de goji?
C'est une sorte de super aliment. C'est des petites baies rouges sympas.
Ah oui, d'accord, des genres de cranberry, quoi.
Un petit peu.
D'accord. Non, mais en vrai, avec un peu d'entraînement, c'est vachement bien parce que justement, tu visualises mieux les quantités et donc ça t'évite le gâchis. Et ça t'évite aussi, mine de rien, les trucs en promo que tu vas gâcher. Tu sais, les packs qui réunissent plusieurs produits ensemble. Moi, je suis assez client de ça parce que c'est vrai que tu fais souvent des économies là-dessus, mais c'est vrai aussi que la plupart du temps, tu finis par en foutre à la poubelle.
Alors, ces promotions en tête de rayon, c'est tentant. Mais justement, c'est aussi une question de pouvoir d'achat. On l'avait dit dans le podcast sur les soldes, on ne peut pas non plus juste critiquer ces promotions. On peut se demander s'il ne faudrait pas qu'elles soient plus généralisées. Mais par contre, il y a une manière de bien acheter ces promos sans spécialement gâcher, tu vois. Mais d'ailleurs, en parlant de prix, moi j'y vais aussi des fois dans ces magasins pour prendre des trucs en vrac. Ça ne te coûte pas plus cher quand même?
Alors, c'est là où il faut quand même se dire les choses. Ça dépend de ce que tu achètes au départ et donc in fine, ça dépend un peu de ton niveau de revenu quand même. Il y a eu une étude de l'ADEME qui a montré que oui, des familles pouvaient même faire des économies en achetant en vrac dans les magasins bio qui le proposent.
Ah ouais?
Ouais, mais...
Ah, il y a un mais, je le savais qu'il y avait un mais.
Ouais, il y a un bon mais. En fait, les familles testées, c'était toutes des CSP+, quoi. C'est-à-dire des gens qui consomment au départ plutôt les produits haut de gamme des supermarchés. Tu sais, souvent, les supermarchés, ils ont une gamme bio ou une gamme un peu qualité, quoi. Qui est la gamme la plus chère du supermarché.
Ah oui, du coup, cette gamme-là, en général, elle est très chère. Alors que s'ils vont dans un magasin spécialisé dans le bio ou le vrac, il y a des produits qui sont un peu moins chers pour ce même type de qualité, c'est ça ?
Exactement. En fait, disons que la marque premium du supermarché, elle va correspondre aux produits en vrac et sans marque du magasin bio, en gros, en très gros.
D'accord. Donc, pour eux, ça vaut le coup. Par contre, si tu fais tes courses dans un grand hypermarché où, justement, les produits sont quand même beaucoup moins chers que les trucs premium des petits supermarchés...
Bah là, c'est mort. En fait, pour le dire de manière un peu caricaturale, si t'as l'habitude ou si t'as besoin d'acheter les marques distributeurs, notamment pour des raisons économiques, tu vas pas y gagner au change en allant dans un magasin bio. Ça, c'est très clair.
Ok, c'est super déprimant. Donc, la première étape pour se mettre au zéro déchet, c'est acheter en vrac et mettre dans des bocaux, mais c'est réservé aux riches. Génial.
Non. Attends. Si tu m'as bien écouté, le vrac, ça vient en troisième. Rappelle-toi. La première chose à faire, c'est de définir tes besoins réels.
Donc le fait que j'ai besoin d'une machine à laver.
Voilà. La seconde, c'est le fameux compost pour réduire d'un tiers les déchets de ta poubelle.
Qui, on le rappelle, ne représente que 6% des déchets globaux.
Certes. Et la troisième, effectivement, c'est de réduire ses emballages via le vrac.
Qui est uniquement réservé aux riches.
Quand tu peux. Exactement.
Génial. Alors, vu que je viens un peu de casser l'ambiance, du coup, je me demande une chose quand même. On n'a pas parlé du tri des déchets. Je veux dire des autres déchets que les déchets organiques. Et ça, c'est pas important, ça peut pas faire beaucoup.
C'est important, mais il faut bien comprendre que ça vient après. Tu vois, là, on vient de faire une liste des priorités, et justement, ça vient après, puisque finalement, ces déchets qui ne sont pas organiques, en fait, sont les déchets qui arrivent quand tu as déjà produit des déchets, si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, donc t'as déjà un peu échoué.
Voilà, exactement. En fait, disons que trier dans le sens de mettre dans les différents bacs alors qu'ils soient récoltés par le camion, c'est pas forcément génial, parce que comme on l'a vu, bah, les déchets souvent ils sont pas bien recyclés, pas complètement recyclés. Cela dit, le tri, ça fait quand même partie d'une démarche d'économie circulaire, donc ça reste un bon geste, on va pas dire que c'est mal, bien sûr que non.
L'économie circulaire, on le rappelle, c'est réutiliser les déchets pour fabriquer autre chose.
C'est ça, au lieu de détruire ou de stocker un déchet, on l'utilise comme une matière qu'on peut réutiliser pour fabriquer de nouvelles choses. Et le premier qui me parle de upcycling, il sort.
On va faire un podcast sur le upcycling, je pense.
Mais carrément.
Mais moi, je vais te parler non pas d'un truc à la mode, mais d'un truc un peu ancien. En fait, l'économie circulaire, ça me fait un peu penser aux chiffonniers du 19e siècle. Tu sais, ceux qui ramassaient les bouts de tissu qui traînaient sur les trottoirs pour les revendre aux usines à papier.
Ah, mais oui. Et je vois où tu veux en venir. Effectivement, les vieux chiffons transformés en papier, c'était un peu les prémices de l'économie circulaire.
Et les chiffonniers récupéraient aussi des cartons pour la fabrication de meubles ou des cheveux pour faire des perruques.
Ah, les cartons pour la fabrication de meubles, ça devait être l'origine des meubles Ikea, ça, à mon avis. Hein. Boum, allez, un sponsor en moins pour le podcast. Paf. C'était quand même vachement écologique comme démarche. Hein. Mais pourquoi il n'y a plus de chiffonniers dans les villes?
À cause des hygiénistes. Les hygiénistes, ce sont des scientifiques et médecins urbains qui étaient très critiques du chiffonnage parce que pour eux, cette activité, elle est synonyme de misère, de saleté et d'épidémie.
Vilains hygiénistes.
Non, mais attends, faut pas trop taper sur les hygiénistes. Hein. C'est quand même grâce à eux qu'on a eu des villes pas trop dégueulasses, qu'on a eu l'hygiène, qu'on a eu moins d'épidémies. Et puis en plus, c'est grâce à eux qu'on a eu le tri sélectif.
Ah ouais, le tri sélectif aussi.
Eh ouais, le préfet Poubelle, qui était hygiéniste justement, il a mis en place le traitement des ordures ménagères en 1883. Alors pour ceux qui savent pas, le préfet Poubelle, c'est pour ça qu'on appelle ça une poubelle.
C'est quand même génial. Je veux quand même faire un petit incise sur le fait que c'est absolument génial. C'est comme si on avait eu le lieutenant Slip, quoi.
Voilà. C'est trop bien. Du coup, ce préfet poubelle, il a proposé de créer 3 bacs, dès le début. Hein.
Ah mais c'est dingue.
Un pour le papier, le carton, les chiffons, un autre pour le verre et le dernier pour les matières organiques.
Mais c'est fou, il avait tout compris. Hein. Mais du coup, plus de chiffonnier, quoi.
Exactement. Mais quand il réfléchit, les personnes qui se lancent comme toi dans le zéro déchet, est-ce que c'est pas un peu les chiffonniers du 21e siècle?
Ah c'est marrant ça, je m'y attendais pas. Comment ça?
Eh ben le mouvement zéro déchet... Ce n'est pas que réduire les emballages, c'est aussi réparer ce qui est cassé, réutiliser ses propres déchets. Et ça, c'est pas la même chose que les mettre dans un bac jaune ou bleu. Quand tu transformes les déchets organiques en terreau pour tes plantes, c'est la même démarche qu'un chiffonnier qui rassemble les vieux tissus pour fabriquer du papier.
Ah, je vois où tu veux en venir, et en plus, on obtient le même résultat qu'un chiffonnier. Hein. Au final, on remplit moins notre poubelle, donc on remplit moins la déchetterie. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que les déchets, comme on l'a dit, hein, malgré toutes nos avancées technologiques, c'est toujours, toujours une pollution.
Le zéro déchet, c'est comme tous les slogans. C'est un peu caricatural.
À moins, bien sûr, que vous viviez dans une ferme en autarcie, et encore, il est absurde d'imaginer que vous pourriez ne produire aucun déchet. Ou les valoriser sans aucun impact écologique.
Mais la démarche, c'est bien de s'interroger avant tout sur la nécessité de polluer. Qu'il s'agisse des objets qui viennent encombrer nos poubelles ou des emballages qui les recouvrent, dont la production a elle-même entraîné des déchets.
Autrement dit, le zéro déchet, c'est à la fois consommer différemment, par exemple en privilégiant le vrac pour les choses qui se conservent plus longtemps.
Mais c'est aussi consommer moins, parce qu'il n'y a pas meilleur déchet que celui qui n'est jamais produit.
Et cette logique-là, il faut se l'appliquer, mais il faut surtout que les industriels et les producteurs se l'appliquent.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast avec votre grand-père qui achète ses nouilles en vrac ou avec votre neveu qui en fait des colliers.
Vous pouvez aussi nous envoyer un mail, l'adresse c'est l'envers avec un T, du décor, tout ça tout attaché, @huffpost.fr. À bientôt.
L'envers avec un T, du décor, tout ça tout attaché, ça fait long comme adresse.
Tu dis au revoir aux gens.
Au revoir.